Nous avons chanté tout à l'heure, qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras. Je ne sais pas si nous réalisons la portée de ce que nous avons chanté. Perdu, mais par ta grâce, il m'a retrouvé. J'étais esclave du péché, mais à cause de son sang versé, je suis enfant de Dieu. Oh, quelle grâce! Quel immense bonheur de savoir qu'un jour notre vie a été changée. Le Seigneur nous a transformés. D'esclaves, nous sommes passés à enfants de Dieu. Nous sommes passés d'ennemis de Dieu à enfants de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que le monde ne peut pas comprendre. Et cela doit nous amener d'autant plus chaque jour à courir devant lui pour réclamer son secours et pour le célébrer. Lorsque nous analysons nos vies, quand réalisons la société dans laquelle nous sommes, les circonstances auxquelles nous faisons au quotidien, nous pouvons avoir l'impression que la vie est injuste. D'ailleurs, c'est le propos de certains qui ne connaissent pas Dieu. Étant dans la souffrance, dans les difficultés, certains arrivent à dire que voilà, la vie est injuste, que Dieu est injuste. Et peut-être quelqu'un au milieu de nous ce matin a cette pensée, parce que la situation est au-delà de nos portées. Peut-être quelqu'un pense, au regard de ce qu'il vit, que Dieu n'est pas là. Mais il y a une réalité indéniable. Dieu est bien présent. Dieu est bien là. Et il désire tant être aux côtés des hommes. Et il a tout mis en œuvre pour que les hommes soient près de lui. Puisque Dieu n'est pas lointain, les hommes peuvent se rapprocher de lui. Et c'est ce que Dieu attend des hommes. Paul dira ceci dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, verset 26. En parlant de Jésus, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race d'Abraham. Amen. Dieu veut que les hommes le cherchent. Malgré nos faiblesses, malgré nos limites, il y a un besoin encore plus pressant aujourd'hui que les hommes s'approchent de Dieu. S'approcher de Dieu, parce que l'heure de la décision est imminente. Parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et puisque l'être humain ne peut atteindre Dieu à cause de son aveuglement et de ses limites, il a plu à Dieu de se révéler aux hommes. Et aujourd'hui, si nous pouvons nous attendre à lui, c'est parce que Dieu s'est révélé. Et parce que Dieu s'est révélé, les hommes peuvent s'approcher de lui afin de le connaître. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jacques lance cet appel. Au chapitre 4 et au verset 8, il dira ceci: « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. » Approchez-vous de Dieu. Par ces paroles, l'apôtre veut rappeler aux hommes que Dieu, dans sa miséricorde, ne les rejette pas. Ah, combien nous pouvons penser parfois, vu les circonstances, que nous sommes rejetés de Dieu, alors que non, Dieu nous aime. Il y aurait eu des raisons pour lesquelles Dieu pouvait nous rejeter à cause du péché qui nous a tellement enveloppés au point que nous avons tourné le dos à Dieu. Dieu pouvait nous rejeter. Mais c'est dans sa grâce encore que Dieu a donné son Fils Jésus pour qu'il meure à la croix. Et l'œuvre de la croix, c'est la preuve que Dieu ne rejette pas les hommes. Dans sa miséricorde, il veut venir à notre secours. Jésus lui-même dira ceci, « Le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. » C'est ce que nous étions. C'est ce que sont plusieurs dans notre société. Peut-être c'est quelqu'un au milieu de nous ce matin, perdu, parce que Dieu n'est pas le maître de nos vies. S'approcher de Dieu, voilà un appel qui est encore d'actualité aujourd'hui au regard des circonstances que nous vivons. Mais bien plus qu'à cause de son amour pour les hommes, Dieu, pour nous permettre de retrouver un sens à nos vies, il nous a tendu la main. C'est une exhortation quand même qui montre la nécessité d'un changement de vie. L'apôtre dira, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. J'ai essayé de chercher à savoir ce que ce mot voulait dire dans le grec. Et le mot utilisé pour s'approcher, c'est amener près d'eux, joindre une chose à une autre, amener près d'eux. Et ce que l'apôtre demande, c'est que les hommes amènent leur vie près de Dieu, c'est qu'ils joignent leur vie à celle de Dieu. L'homme n'est pas fait pour vivre seul. Il est fait par Dieu et pour Dieu, d'où l'interpellation de l'apôtre « Approchez-vous de lui ». Ce matin, qui que nous sommes, nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas faire face à cette vie sans lui. Nous ne pouvons pas faire face à cette vie par nous-mêmes. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu. Cet appel résonne encore aujourd'hui. Vu la condition de notre monde, et peut-être cet appel est pour vous ce matin. Paul rappelle aux chrétiens d'Éphèse ce qui était leur condition terrible de vie, car une vie sans Dieu est une vie misérable. Dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, versets 1 à 3, il montre les méfaits de cette vie sans Dieu, de cette vie privée de la grâce de Dieu, de l'intention des hommes à s'éloigner de Dieu, à vouloir vivre sans l'intervention et le secours de Dieu. C'est une vie misérable. Combien d'entre nous, nous pouvons attester et confirmer que lorsque nous étions sans Dieu, nous menions une vie misérable. Bien que nous ayons tout autour de nous, nous menions une vie misérable. Personne ne peut me dire le contraire. Bien que nous ayons une situation merveilleuse, peut-être nous avons une belle famille, une belle maison, nous avons tout, quand on n'a pas Dieu, on est miséreux. C'est la parole de Dieu qui le dit. Une vie sans Dieu est une vie misérable. Et notre société est dans la misère à cause du rejet de Dieu et à cause de ce que les hommes ne veulent pas admettre, l'existence de Dieu. Réalisons tout de même que si Dieu interpelle les hommes à s'approcher de lui, c'est parce qu'il a mis tout en œuvre pour que les hommes puissent le faire. L'apôtre, lorsqu'il parle aux Éphésiens en leur montrant leurs conditions de vie misérables, il montre également qu'il y avait un fossé qui s'était mis entre Dieu et les hommes. Non pas que Dieu ait voulu que ce fossé soit là, mais c'est l'attitude de l'homme qui a créé ce fossé. Et Jésus, dans sa grâce, est venu briser le mur d'inimitié qui nous empêchait d'atteindre Dieu. C'est Dieu qui a institué ce pont-là pour que l'homme puisse accéder à lui. La Bible fait mention d'hommes et de femmes qui ont pris conscience de leurs besoins du Créateur et de s'approcher de lui. Dimanche dernier, Benjamin a parlé de la femme à la perte de sang. Au travers de cette histoire, nous voyons réellement la vie misérable de cette femme. Nous voyons sa condition déplorable. Nous voyons une femme livrée à elle-même, abandonnée par la société. Mais réellement, parce qu'elle avait entendu parler de Jésus et de ce qu'il était capable de faire dans sa timidité, elle a osé s'approcher. J'aimerais parler d'un homme ce matin. D'un homme qui, par sa démarche, montre le sérieux de son intérêt pour Jésus. Dans Luc au chapitre 19, versets 1 à 10, il est question de cet homme Zachée. Oh, nous connaissons l'histoire de Zachée, on l'apprend aux enfants, on le lit, on l'a lu plusieurs fois depuis l'enfance, mais il y a quand même quelque chose de fascinant quand nous relisons l'histoire de cet homme. Peut-être quelqu'un au milieu de nous essaye de trouver des prétextes pour ne pas s'approcher de Dieu. Peut-être quelqu'un essaye de se remémorer toutes les circonstances qui l'ont amené à s'éloigner davantage de Dieu. Mais quand nous examinons de près la vie de Zachée, quand nous examinons de près la démarche qu'il a entreprise, nous nous rendons compte qu'il aurait pu y avoir des facteurs qui étaient là à l'éloigner de la grâce de Dieu. L'histoire nous montre cet homme qui avait une situation sociale bonne, mais dans sa situation, cet homme n'était pas aimé des autres. Et par sa situation, il pouvait d'autant plus ne même pas faire cas de Jésus. Sans parler de son physique. Voyez-vous, frères et sœurs, et vous qui êtes là ce matin, il y a tellement de facteurs dans nos vies qui ont tendance à nous éloigner de la présence de Dieu. Mais comme je l'ai dit, l'histoire de cet homme est fascinante. Pourquoi? Parce qu'au lieu de se laisser décourager, cet homme va s'armer de courage et de foi. Son empressement prouve qu'il ne pouvait se satisfaire de sa propre vie. Je ne sais pas ce que vous pensez de votre vie. Êtes-vous satisfait de la vie que vous menez? Êtes-vous satisfait? Qui est satisfait de sa vie? Qui est satisfait de sa vie? Hein? Vous êtes satisfait? Dites-moi. Vous êtes satisfait? Ah, je vous admire. Hein? Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, je ne suis pas satisfait de ma vie. Je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Alors que j'ai tout pour être satisfait. Hein? J'ai une belle famille. Hein? J'ai tout pour être satisfait. Mais je ne suis pas satisfait. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans ce corps de péché et ce corps de péché a tendance toujours à me ramener d'où le Seigneur m'a tiré. Ce corps de péché est là pour m'empêcher chaque jour d'avancer avec le Seigneur alors que ce que le Seigneur attend de moi, c'est que je marche de progrès en progrès. Et le désir de mon cœur, ce n'est pas de rester dans l'état dans lequel je suis. Le désir de mon cœur, c'est d'avancer. Voilà pourquoi je ne suis pas satisfait. Celui qui est satisfait, merci Seigneur, moi je ne le suis pas. Et cet homme Zachée ne pouvait pas se satisfaire de là de sa condition. C'est pour cela qu'il va, braver, il va aller au-delà de ce qui pouvait s'opposer à lui. La Bible nous dit, il est allé monter sur un sycomore. Frères et sœurs, et vous qui m'écoutez ce matin, le désir de Dieu, c'est que nous refusions de nous complaire dans notre état et que nous prenions cette décision en vive ce matin et pour l'éternité de dire, Seigneur, voilà, au regard de ce que tu as fait pour moi, au regard de là où tu m'as tiré, Seigneur, je refuse de me complaire, voilà, j'aspire et je désire réellement aller plus loin avec toi et je veux monter. Nous chantons ce chant qui dit ceci, je veux monter sur la montagne. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, c'est là que sa joie nous inonde pour nous s'ouvrir les cieux. Je veux laisser les joies du monde et me tenir tout près de Dieu. Je veux monter sur la montagne que l'on est. Amen. C'est là que l'on est heureux. On ne peut pas se satisfaire. Oh, frères et sœurs, nous réalisons malheureusement que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens se complaisent dans leur état. Et pour eux, je suis sauvé, alléluia, amen, le reste, c'est secondaire, c'est déplorable. C'est déplorable. Alors qu'il y a là une nécessité absolue de s'approcher. Il dira, l'apôtre, approchez-vous de lui et il s'approchera de vous. Et je reviens à la définition de ce mot, c'est amener plus près. Réalisons quand même que c'est le Seigneur qui a été le premier à venir tout près de nous, alors que nous lui avons tourné le dos. Il est venu tout près. Si Dieu n'était pas venu près de nous, qui aurait pu s'approcher de lui? Aucun d'entre nous, frères et sœurs, et puisque Dieu s'est approché de nous, combien plus forte raison? Je me dois de m'approcher de lui. Cet homme courut et monta. Parce qu'il a appris que Jésus devait passer par là. Telle devrait être l'attitude des hommes au regard de l'amour de Dieu. Et comme va le dire Jacques, l'attitude de Zachée n'est pas restée indifférente aux yeux de Jésus, puisqu'il n'est pas passé outre. Bien qu'il soit monté, alors que Jésus s'est approché au pied de cet arbre, il a levé les yeux. Et qu'est-ce qu'il va faire? Zachée, descend. Zachée, descend. Car il faut qu'aujourd'hui, je demeure chez toi. Nous constatons que le désir de Dieu, c'est que les hommes s'approchent de lui. S'approcher. Et la récompense que Dieu va donner, Jésus va donner à cet homme, il dira, le salut est entré dans cette maison. L'effort de cet homme n'a pas été vain. La démarche n'a pas été vaine. Son aspiration a été récompensée. Son désir de voir Jésus, son désir de s'approcher va être récompensé parce que le Seigneur lui-même est allé chez lui. J'aimerais dire ceci ce matin pour celui qui qui est entré dans ce lieu et qui n'a pas encore pris la décision de faire la paix avec le Seigneur. Laissez-moi vous rappeler ce matin que Jésus, malgré la multitude, a posé le regard sur un seul, Zachée. Ce n'est pas qu'il ait mis les autres de côté, mais il voyait le tréfonds du cœur de cet homme, son aspiration à ne pas se satisfaire de sa vie, mais à vivre une vie transformée, une vie renouvelée, une vie changée. Jésus a posé ses regards sur Zachée et vous et nous. Ne réalisons-nous pas que le Seigneur désire avoir ses regards sur nos vies? Ne réalisons-nous pas que son aspiration, ce n'est pas simplement d'avoir une vue d'ensemble sur les hommes sur cette terre, mais il veut réellement avoir son regard, un regard personnel sur nous, sur vous et sur moi. Le regard de Jésus, c'est ce qui fait la différence. La nécessité de s'approcher. Il est vu, pourquoi il y a cette nécessité? Jésus est vu comme la principale pierre. Ce qui montre que sans lui, il n'y a point de vie possible. L'auteur du psaume 118 dira ceci, au verset 22. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Pour ceux qui s'y connaissent, dans la maçonnerie, vous conviendrez avec moi qu'avant qu'une maison soit bâtie, il faut d'abord la première pierre. N'est-ce pas? Je ne m'y connais rien en maçonnerie, mais au moins je sais ça. Je sais qu'il faut poser une première pierre sur laquelle viendront se poser les autres. Et lorsqu'on enlève la première pierre, qu'est-ce qui restera? Qu'est-ce qui va rester? Quand on enlève Jésus d'une vie, qu'est-ce qui va rester? Quand on enlève Dieu d'une vie, quel est le résultat? C'est pour cela, voilà, il est dit, il est la principale pierre. C'est la pierre de fondation que l'on place à l'angle et sur laquelle on enlit les murs. La vie des hommes doit être alignée sur celle du Seigneur. Cette vie qu'il a livrée à la croix, cette vie que les hommes ont méprisée, cette vie que lui-même n'a pas considérée, mais il a livrée lui-même pour que nous soyons sauvés, la vie de Jésus devrait être la principale, celle sur laquelle nous bâtissons et nous fondons notre vie sur la terre. Paul dira ceci aux Éphésiens, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Les apôtres, dans leur rôle de dépositaire des révélations de Dieu, ne pouvaient parler que de quelqu'un d'autre et ne pouvaient s'appuyer sur quelqu'un d'autre. C'était Jésus. Le Seigneur lui-même. Et l'Église est considérée comme la construction qui s'élève et qui ne tient debout que elle est bâtie sur le rocher inébranlable. Cet édifice que nous sommes, nous ne pouvons parler d'édifice que dans la mesure où il y a un fondement. Sans fondement, il n'y a plus d'édifice. Sans fondement, ce ne sont que des ruines. Sans le Seigneur, ma vie n'est qu'une ruine. Au chapitre 4, verset 16, Paul parle de la croissance de l'Église qui ne vient que de Jésus. Nous ne pouvons en effet grandir et croître que dans la mesure où il y a un qui a la priorité sur notre vie. L'Église ne peut grandir, je ne peux grandir, vous ne pouvez grandir, nous ne pouvons grandir que dans la mesure réelle où il y a le Seigneur au centre de nos vies. L'Église ne peut grandir que dans la mesure où il y a cette pierre angulaire, c'est de lui que nous tirons notre accroissement. Malheureusement, j'ouvre simplement une parenthèse. Combien de chrétiens, de soi-disant chrétiens, essayent de vivre leur vie en étant loin des choses du Seigneur? Ce n'est qu'une hérésie, frères et sœurs. Personne ne peut tenir sans le fondement qui est Jésus. Personne ne peut tenir seul. Et Paul dira ceci, voilà, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, en lui tout l'édifice bien coordonné. Tout l'édifice bien coordonné. Vous savez, on ne peut pas parler d'édifice s'il n'y avait pas vous et moi. Parce que l'édifice est là parce qu'il y a la somme des pierres qui ont été agencées. Je ne peux pas me mettre de côté tout en voulant être, en voulant croître dans le Seigneur. Et c'est la tendance aujourd'hui dans notre société. Beaucoup se privent de la communion fraternelle, beaucoup se désengagent de ce lien que le Seigneur a formé en se disant « je n'ai pas besoin de l'Église ». Vous savez, je n'ai pas honte de le dire et je le redis avec regret, si quelqu'un pense de la sorte au milieu de nous ce matin, non seulement vous êtes dans l'erreur, mais vous êtes en danger. Vous êtes en danger. Parce que quelqu'un qui se désengage, quelqu'un qui se désolidarise du groupe est en danger. Et ce que veut le diable, c'est désolidariser les membres que nous sommes afin de nous accabler. Quand nous sommes unis, nous sommes plus forts. La Bible dit « Dieu, deux valent mieux qu'un ». Car si l'un tombe, l'autre le relève. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire les uns pour les autres. Mais si je suis de côté et que je tombe, qui va venir me relever? Qui va me relever? D'où l'intérêt quand même de réaliser que nous avons besoin. Non seulement de bâtir notre vie sur le Seigneur et de réaliser que l'édifice ne tient que dans la mesure où nous sommes unis les uns avec les autres, dans l'amour. Je termine avec ceci. Dans Romains au chapitre 9, verset 33, l'apôtre Paul présente le Christ comme le fondement de l'espérance des croyants. Le fondement de l'espérance. Nous avons une espérance vivante en un Dieu vivant. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Je ne peux parler d'espérance que dans la mesure où mes yeux sont fixés sur le Dieu de l'espérance. Je ne peux pas faire autrement. Et notre monde n'a point d'espérance parce qu'il vit sans Dieu. Et si ce matin quelqu'un vit sans Dieu, vous êtes sans espérance. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle aux Éphésiens, il montre les méfaits de cette vie sans Dieu lorsqu'il va leur dire, vous êtes sans Christ, sans Dieu, sans espérance, privés de toutes les grâces de Dieu. Comment pouvons-nous être au bénéfice de la grâce de Dieu tout en étant loin de celui qui veut nous dispenser ses grâces? D'où l'intérêt de revenir à ce que l'apôtre va dire, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos âmes. » C'est ce que va faire Zachée lorsqu'il va réaliser sa condition déplorable. Il va se tourner vers le seul qui était capable de le transformer, mais il s'est tourné vers le seul, celui qui l'aimait et qui pouvait changer sa vie. Ce matin, j'aimerais terminer avec ceci. Sommes-nous conscients que l'heure de la décision est imminente? Cette décision de joindre notre vie à celle de Dieu, cette décision d'amener notre vie tout près de lui, cette décision même, parce que quand je m'approche de lui, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il me fait découvrir qui il est. Et puisque je découvre qui il est, ma propre personne s'efface devant lui. Il y a tellement d'égoïsme dans nos églises, tellement d'orgueil dans nos églises, parce que nous refusons d'être cachés en Christ. Quand je ne suis pas caché en Christ, c'est ma propre personne qui prend le dessus. Et là, ça fait défaut. Non seulement je me fais du mal, mais je fais du mal aux autres. Et l'Église souffre parce qu'il y a une somme d'individualité, alors que l'Église devrait être un. Quand je m'approche, je m'unis à ceux qui ont été sauvés par grâce comme moi. Et je me joins à eux pour apporter ma louange et ma reconnaissance au seul Dieu vivant. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Oui, il y a là cette nécessité, cette décision à prendre. Elle n'est pas uniquement pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais la décision implique d'autant plus l'Église de Jésus. Parce que Paul dira, il est le fondement de l'espérance du croyant. Le fondement de mon espérance. Il est la pierre angulaire, la principale. Ma vie ne pourra s'épanouir que dans la mesure où je suis tout près de lui, afin de le connaître et de profiter de sa présence. Parce que sa présence change infiniment notre existence. Elle nous amène chaque jour à son image et à sa ressemblance. À lui soit toute la gloire. Amen. Je veux bénir ton Saint-Nom, Seigneur, au regard de cet amour infini que tu as manifesté à notre égard. Comme nous l'avons chanté, qui suis-je pour que tu m'ouvres tes bras? Seigneur, tu m'acceptes tel que je suis. Et puisque tu nous as acceptés, Seigneur, combien nous voulons chaque jour nous approcher de toi. Combien nous voulons chaque jour nous abandonner à toi. Combien nous voulons chaque jour nous tenir dans ta présence afin de te connaître, afin de te permettre de te révéler davantage. Seigneur, plus nous te connaissons, plus nous pouvons parler de toi et témoigner de ta fidélité. Alors bénis ton Église. Et s'il y a quelqu'un au milieu de nous, Seigneur, qui jusque-là n'a pas encore pris cette décision de joindre sa vie, Seigneur, à la tienne. Seigneur, s'il te plaît, éclaire-le. Nous réclamons le secours et la grâce de Dieu sur la vie de cet homme, de cette femme. Seigneur, si quelqu'un n'a pas encore pris la décision d'amener sa vie tout près de toi, Seigneur, interpelle la personne. Parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre sans toi. Nous voyons les conséquences autour de nous. S'il te plaît, que ton amour s'étende encore sur tous les hommes. Au milieu de nous ce matin, parle à nos cœurs par ton esprit. Plus que jamais, Seigneur, je veux chaque jour m'approcher de toi. Plus que jamais, Seigneur, je veux demeurer dans ta présence. Plus que jamais, Seigneur, je veux avoir cet élan de cœur comme Zachée, Seigneur, refusant toute opposition, Seigneur, et courant, Seigneur, mon Dieu, mon roi, vers la carrière qui nous est réservée. Seigneur, à toi la gloire. Oui, nous voulons refléter ta personne. Oh, que nous soyons ce témoin pour toi dans ce monde qui se perd, dans ce monde qui se cherche, dans ce monde si attristé, Seigneur. Fais-nous la grâce encore de témoigner et de parler de toi autour de nous pour la gloire de ton nom. Amen.